Chapitre 43. 3 novembre 2010. Le commandant Rampin me tend le permis d'inhumer de Colette. Votre tante n'était pas atteinte d'une maladie contagieuse et ne portait pas d'appareil contenant de piles. Elle n'avait pas donné de contre-indication au don d'organes, pas de traces de cancer ni de grossesse. Elle est morte d'un infarctus du myocarde, plus communément appelé crise cardiaque, pendant son sommeil. Le flux sanguin vers le cœur se serait bloqué et aurait détruit une partie du muscle cardiaque. Son cœur n'a pas été suffisamment fort pour pomper le sang vers le reste du corps, ce qui a entraîné une insuffisance cardiaque fatale. Il vous faut déclarer le décès à la mairie du lieu de décès, la chambre funéraire ou mortuaire, et la mairie du lieu où aura lieu l'inhumation, si ce n'est pas à Guignon. Enfin, voici l'autorisation d'enterrer sa dépouille. Il faudra que le maire de... Cyril Rampin blêmit tandis que je bredouille plusieurs. Je suis désolée, j'y arrive pas. Je suis désolée, vraiment désolée, je vous demande pardon. Pardon. Je suis prise d'un fou rire monstrueux. Je cache mon visage entre mes mains et plus je me répète que je dois me calmer, plus le mot « grossesse » rebondit comme une balle de flipper sous extasie dans ma tête. À mes côtés, Lies ne dit plus rien. Je sens son regard mortifié sur moi. Je suis incapable de lever la tête. Je n'ai pas eu de fou rire comme celui-là depuis... Depuis jamais, j'en ai mal au ventre. Impassible, le capitaine poursuit. L'autorisation d'inhumer doit être différenciée de l'acte de décès et de l'autorisation de fermer le cercueil fournie par les services de l'état civil de la commune où le décès est survenu. Cyril Rampin me tend un énième formulaire que je saisis. Je crois qu'ensuite, tout dure une éternité. C'est Lies qui parle, qui pose des questions, tandis que je suffoque à ses côtés. Quelle est la première chose à faire? Qui est chargé de ramener ma tante, à partir de quand? Colette va-t-elle reposer dans la chambre funéraire de Guignon avant de partir pour la crémation? Se fait-on embaumer avant d'être incinéré? Les dernières volontés que Colette Septembre a écrites sur un bout de papier sont-elles valables? Que va-t-il se passer pour la personne qui repose à la place de Colette depuis 3 ans? Quand aura lieu l'exhumation? Qui sera présent? Et moi, assise à côté de Lies et en face du capitaine, je suis incapable de parler. Mon corps est aussi tétanisé qu'allègre. Quelle étrange sensation d'exultation que celle du fou rire. Plus les deux hommes parlent entre eux, plus mon rire redouble, comme si je ne faisais plus partie de leur monde, que j'assistais à une scène qui ne me concerne pas. À un moment, j'entends le capitaine répondre à Lies. Ce sont des choses qui se produisent, c'est nerveux. Regardez aux enterrements, ça arrive souvent. Et je comprends qu'il parle de moi. Papa est mort au bord de la mer à 10h du matin. Papa est mort à Cassis. On ne peut choisir pire cadre pour mourir tant ce village est beau. J'aurais voulu qu'il parte en hiver à la fin d'un concert, vieux et fatigué dans une ville moche, grise et remplie de courants d'air. Il a fermé les yeux le dimanche 21 juin 1987, premier jour de l'été à l'âge de 37 ans. Dans la merveilleuse lumière du sud. Le jour de la fête de la musique a emporté un de ses plus grands porte-paroles. Il faisait 20 degrés à l'ombre de la terrasse, où il buvait un thé en lisant une revue musicale. Maman, rêveuse, lui tenait la main en regardant les passants. Il a lâché sa main dans un étrange fracas. Sa tête a heurté la tasse, qui s'est cassée sur le sol. Il est mort assis, le visage sur la table de bistrot. Il n'est même pas mort devant un piano. Un touriste médecin a essayé de le réanimer, en vain. Les pompiers ont tenté l'impossible, mais mon père ne respirait plus depuis trop longtemps. Mes parents venaient de jouer les préludes de Bach à l'Opéra de Marseille pendant 10 jours au sein du Grand Orchestre de Paris. Nous séjournions tous les trois dans un hôtel sur le Petit Port. Je les avais rejoints pour le week-end. Ils m'avaient autorisé à rater l'école le lundi suivant, car mon année de seconde touchait à sa fin. Je n'ai pas remis les pieds au lycée avant la rentrée suivante. Je dormais encore quand maman a débarqué dans ma chambre. Elle s'est assise sur mon lit et m'a caressé la joue. J'ai ouvert les yeux sur son visage baigné de larmes. Son regard avait déjà changé, comme si quelque chose avait subitement quitté ses grands yeux clairs. Leur flamme, sans doute. Elle ne l'a jamais retrouvé après. Elle a dit: « Papa est parti. » J'ai grimacé, sortant de mon sommeil de mauvaise humeur. Parti. Comme maman était très sensible et pleurait à la vue d'une plante desséchée, je ne l'ai pas comprise. Mais elle a fini par chuchoter, entre deux sanglots en me serrant la main, « Il est mort. » Il faut du temps à certains mots pour atteindre et pénétrer notre cerveau. Parfois quelques secondes, parfois quelques minutes, parfois des années. La veille, il s'était fait beau pour leur dernier concert. Ils ont quitté l'hôtel vêtus de noir en fin d'après-midi, m'ont laissé seule. Je n'ai pas eu envie de les accompagner malgré leur insistance. J'en avais marre de leur musique classique. En 87, j'écoutais Duel au soleil, Blue Hotel et T'en vas pas. Je me suis longtemps demandé si mon père était parti à cause de cette chanson que je braillais à tue-tête dans ma chambre en bordel. Comme une punition, une sentence. Papa, t'en vas pas. On peut pas vivre sans toi. T'en vas pas au bout de la nuit. Nuit, tu me fais peur. Nuit, tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans moi. On n'ira plus au ciné tous les trois. À la place du concert, j'étais allée au cinéma de Cassis, voir L'été en pente douce. J'ai adoré. J'ai mangé une coupe chantilly sur le port en sortant, et je suis rentrée à l'hôtel. Nous avions deux chambres attenantes. Je me souviens encore des numéros, la 7 et la 8. J'occupais la 7. Plus tard, je me suis dit que si j'avais occupé la 8, papa ne serait pas mort. Le chiffre 7 l'aurait protégé. En rentrant de leur concert, ils ont frappé à ma porte. Je regardais l'émission de variété Champs-Élysées à la télévision. Je les ai embrassés distraitement, trop occupés par le programme de Michel Drucker dont Jean-Jacques Goldman était l'invité d'honneur. Maman m'a demandé si le film était bien, j'ai répondu un vague oui, sans donner de détails. Papa, si la musique était belle. J'ai répondu super, sans en avoir la moindre idée. Moi, je voulais être Pauline Lafont. Je voulais être blonde, douce et désirable. Alors que j'avais les cheveux noirs, une exaspération permanente collée à la peau, et que j'étais aussi plate qu'une planche à découper du saucisson. Je n'avais pas du tout fait attention à la bande originale du film. Papa s'est assis à côté de moi et a regardé la fin de l'émission, comme hypnotisé par les images qu'il découvrait. Nous n'avions pas la télévision à la maison. Mes parents vivaient sur une autre planète. Celui des clips vidéo, du top 50 et des enfants du rock, ils ne connaissaient pas. Papa côtoyait Mozart, Bach et Chopin, pas Étienne Dao, Chris Isaac, Madonna ou Elsa. En écoutant Jean-Jacques Goldman, il a souri plusieurs fois et répété « C'est bien écrit ». Je l'aimais de loin. Il était beau, grand, fin, rêveur. Je l'aimais comme on aime un être qui n'est jamais vraiment présent. D'une part, parce qu'il partait souvent, accompagné de maman. D'autre part, parce que lorsqu'il rentrait, il travaillait son piano. Je ne comprenais pas pourquoi il jouait avec une telle obstination, alors que le clavier était une simple prolongation de lui-même. Parce qu'on peut tout perdre, ma chérie. Tout perdre ? Il faut travailler chaque jour pour ne pas perdre son piano. Quand nous sommes ressortis de l'hôtel, maman et moi, il y avait du monde aux terrasses, des rires, des enfants, des boules de glace et des cafés sur les tables, la mer, le soleil et des bateaux. Sur nous, il pleuvait. Comme sur mon ancien poster de Snoopy que je possédais enfant. Il pleut toujours sur notre génération. Un nuage lâchait des gouttes de pluie uniquement sur le chien, alors qu'autour de lui, il faisait beau. Il a fallu prendre une décision. Où papa allait-il reposer pour l'éternité ? À Guignon, près de sa sœur, c'était une évidence. Là où on lui avait permis d'accéder à des études de musique. Mais il vivait à Lyon et avait fait toute sa scolarité là-bas, y avait donné ses premiers concerts. Et puis, à Lyon, si ses amis et admirateurs voulaient se recueillir sur sa tombe, ce serait plus simple qu'à Guignon. Maman ne disait plus un mot. Moi, j'étais comme éblouie par quelque chose qui m'empêchait d'avancer, de voir à plus d'un mètre devant moi. Il fallait que je me cramponne à n'importe quel bras pour pouvoir marcher. C'est Alain Terzieff, le directeur du Conservatoire de musique de Lyon et le meilleur ami de papa, qui a tout géré. Il s'est même occupé de trouver un emplacement au cimetière de la Guillotière et du transport du corps du funérarium de Cassis jusqu'à celui de Lyon. Colette a pris le TGV, accompagné de Louis Berthéol. 40 minutes de train entre la gare TGV et Lyon-Pardieu. Une voiture les attendait. Colette voulait être présente pour la mise en bière. Je ne l'ai pas reconnue tout de suite. Il a fallu qu'elle soit à 20 cm de moi pour que je réalise que c'était elle. D'abord, parce qu'elle avait fait un effort pour s'habiller. Ensuite, parce qu'elle avait vieilli de 10 ans, peut-être 20. Tous ses cheveux sont devenus blancs dans la nuit du 21 au 22 juin 87. Il a neigé sur Yesterday, le soir où ils se sont quittés. Penny Lane, c'est déjà loin maintenant. Mais jamais elle n'aura de cheveux blancs. Il a neigé sur Yesterday, cette année-là même en été. En cueillant ses fleurs, Lady Madonna a tremblé, mais ce n'était pas de froid. Pendant toute la cérémonie, cette chanson a tourné dans ma tête. Je n'ai pas entendu les discours, ni celui du prêtre, ni celui de l'ami Alain. Je n'ai pas entendu la musique que les proches de papa ont interprétée au violon pour lui. J'ai seulement entendu cette chanson de Marie Laforêt dans ma tête, à cause des cheveux blancs de ma tante. Pour dire adieu à papa, le frère de leur Colette Septembre, beaucoup de guignonnais étaient présents, tous silencieux, recueillis. On ne meurt pas à 37 ans. Ils étaient là pour Colette. Peu de gens se rappelaient papa à Guignon. Il n'était que le gosse dont la photo était affichée dans le hall de la mairie et du foyer municipal, parti très jeune pour devenir un jeune prodige qu'on voyait rarement à la télé, et qui revenait de temps en temps au pays pour donner un concert de musique classique qui intéressait peu.